vous remercie quand même, puisque Guillaume est là, la fondation et la générosité extravagante de son accueil. Alors, je me présente rapidement. Un jour, j'étais en train de manger, il y a une visiteuse qui entre comme ça dans la cabane collective et qui me demande « Vous êtes qui? Est-ce que vous êtes connu ?» Alors j'ai commencé à lui dire que si j'étais connu, elle ne me poserait pas la question. Évidemment, si elle avait vu Webbeck en face, elle l'aurait reconnu. Alors, je suis là pour terminer mon premier vrai livre, disons. J'ai fait des études d'histoire que j'ai un petit peu enseignées. Et je travaille principalement comme critique littéraire pour le magazine d'art Art Press. Et tout ça n'a pas beaucoup de rapport, enfin, peut-être que si, mais bon, au fond, c'est pas l'objet, avec ce que je suis en train de faire. Donc, je suis en train d'écrire un livre sur l'écrivain Arthur de Gobineau, qui est donc un second couteau un peu de la littérature française du 19e siècle. Un écrivain qui est plus très lu, un peu oublié, qui jouit d'une très mauvaise réputation, et que j'ai découvert de la manière suivante. Quand j'étais adolescent, j'étais un très grand lecteur de Nicolas Bouvier, et un jour, dans un recueil d'essais de Nicolas Bouvier, je tombe sur une préface de Bouvier aux Nouvelles de Gobineau. Recueil de nouvelles s'appelait Les Nouvelles Asiatiques, ce texte s'appelait Autour de Gobineau. Et ça m'a beaucoup choqué. C'était à la fin des années 90, l'extrême droite en France commençait à faire beaucoup parler d'elle. J'avais entendu parler de Gobineau comme ça, c'est-à-dire comme d'un théoricien raciste. Et donc j'ai lu ce texte avec beaucoup de méfiance, en me disant « mais qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui arrive à Bouvier ?» Et puis après, heureusement, je suis allé au-delà de cette impression. J'ai lu Les Nouvelles Asiatiques et j'ai été totalement émerveillé, puisque c'était sans doute un des textes que j'avais lus sur l'Orient, en tout cas sur le Proche-Orient, qui étaient les mieux informés, les plus généreux, les plus ouverts, les plus totalement exempts de la moindre idée de supériorité de l'Occident. Et donc j'ai décidé de regarder un petit peu plus loin. J'ai découvert un peu son œuvre, ses récits de voyage, ses nouvelles. Et j'ai fini par attaquer le gros morceau, qui est le livre donc, qui cause la controverse, qui est ce grand traité de jeunesse de Gobineau qui s'appelle « Essai sur l'inégalité des races humaines ». Et évidemment, je me suis retrouvé devant un paradoxe, puisque ce qui m'avait séduit chez Gobineau, c'était le fait de lire un grand voyageur totalement exempt de xénophobie, et en même temps l'auteur de théories racistes. Alors pour vous donner une idée du paradoxe devant lequel on se retrouve, j'ai retrouvé un extrait de son recueil, de son récit de voyage qui s'appelle « Trois ans en Asie », qui est donc le récit de sa première expédition en Perse quand il est envoyé comme premier secrétaire à la Légation de France à Téhéran. Et donc, il raconte là-dedans la première fois qu'il voit des Noirs. Ça se passe au moment où son essai sur l'inégalité des races est en cours d'impression. Il est parti pour la Perse alors que le livre n'était pas encore publié. Simplement, c'est un écrit qui est complètement théorique. Et donc, voilà, on se retrouve devant l'expérience de Gobineau qui vient de publier 1000 pages sur l'inégalité des races et qui explique la première fois qu'il voit des Noirs. Bon, je vais pas tout lire, mais... Donc, il se trouve à Aden, au Yémen, et il rencontre des Somalis qui viennent de quitter l'Afrique. La presque totalité était des Somalis, tribu de la côte africaine la plus voisine, et je dois dire que de ma vie, je n'ai vu d'aussi belle ni si parfaite créature. Ils sont noirs à la vérité, mais d'un noir qui n'a rien de déplaisant. Leur couleur est solide, avec un reflet brillant et satiné sur la peau qui rappelle l'éclat de l'or bruni. Leur physionomie n'a absolument rien de nègre. Le nez fin et droit, d'ailleurs à peine et rarement busqué, est dominé par un beau front lisse et plein d'intelligence. D'admirables yeux, bien fendus, accompagnent une bouche fine qui s'entr'ouvre pour montrer les dents d'une blancheur, d'une petitesse et d'une rondeur merveilleuse. Leurs joues n'ont point de pommettes saillantes, leur oreille est délicate, leur chevelure soyeuse, épaisse, abondante, etc. Patata. Bref, ce sont des statues de bronze et qui plus est, des statues antiques de la meilleure époque grecque. Sachant que la statuaire grecque était à l'époque considérée comme le sommet de la création, la première fois que Gobineau rencontre des Noirs, il les compare au sommet de la race supérieure et il poursuit en disant... Si on les compare aux Nubiens, donc les populations du nord du Soudan et du sud de l'Égypte, on découvre tout de suite le caractère et à mon sens le défaut de leur beauté. Le Nubien, quand il est beau et plus grand, plus nerveux, se rapproche davantage de l'Apollon pythien. L'Apollon pythien, c'est le modèle de l'Apollon du Belvédère, qui, d'après Winckelmann, fondateur de l'histoire de l'art, qui à cette époque-là a à la fois lancé l'histoire de l'art au sens moderne, mais également été à l'origine d'un certain nombre de théories raciales. L'Apollon du Belvédère, c'est le sommet de la beauté humaine. Donc, la première fois que Gobineau voit des Noirs qui sont la race la plus inférieure possible selon ses propres théories, il les compare au sommet de l'espèce humaine. Donc, évidemment, qu'on se retrouve devant ce genre de contradiction complètement aberrante, j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait là-dedans, parce que c'est pas comme si on avait affaire à un simple crétin qui raconte n'importe quoi, c'est quelqu'un qui est d'une intelligence brillante, qui est d'une culture extravagante, d'une érudition pas possible, qui parle je sais pas combien de langues. Bon, essayons de voir comment ça marche. Je vais juste vous dire un mot pour vous situer sur en quoi consiste la théorie raciale de Gobineau. La théorie raciale de Gobineau, c'est une histoire de la décadence des civilisations. La question que se pose Gobineau, c'est pourquoi est-ce que les civilisations tombent en décadence? Pourquoi est-ce que l'humanité tombe en décadence par rapport au grand passé que peut être l'Antiquité, la Renaissance, la grande civilisation persane, la grande civilisation indienne, etc. L'explication qu'il donne à ça, c'est le métissage des races. C'est-à-dire que pour lui, chaque civilisation correspond à un certain type de population, un certain mélange de races. À partir du moment où les races se mélangent, la civilisation s'effondre. Bon, après, il rentre même très longuement dans le détail des différentes manières dont une civilisation se casse la figure, mais enfin, le schéma est toujours le même. Et c'est un schéma qui est complètement rigide, complètement déterministe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception, ça fonctionne absolument toujours. Les trois races sur lesquelles se base son système, donc je précise parce que ça, à son époque, il y a des centaines d'anthropologues qui travaillent à classifier la population en différentes races. Donc lui a un système très simple, il y a les noirs, les jaunes et les blancs. Les noirs représentent, j'aime bien comparer ça à la théorie de Freud, parce qu'au fond c'est ce qui marche le mieux. Les noirs, pour Gobineau, c'est la pulsion. Donc ça veut dire que ça veut être tout ce qui va vers la sensualité, mais également toute la création artistique, tout ce qui relève vraiment de la pulsion. Les jaunes, j'aime à dire que c'est le surmoi, c'est la répression de la pulsion, c'est-à-dire c'est le calcul, c'est la force organisatrice, c'est l'organisation de la société. Et les blancs, c'est pas très clair, c'est principalement la beauté supérieure. Et son système, donc, comme je le disais, est complètement rigide, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il voit quelque chose qui est de l'ordre de la pulsion, il dit « Ah tiens, ça c'est du sang noir ». Dès qu'il voit une création artistique, c'est nécessairement du sang noir. Même si c'est, je sais pas, en Scandinavie, il y a 3000 ans, quoi. Et pour que son système fonctionne, il est obligé d'inventer dans son histoire des migrations gigantesques de l'ensemble des races sur l'ensemble de la planète, pour pouvoir toujours dire « Ah oui, mais en fait, il y a 3500 ans, il y a eu telle branche de la race jaune ou de la race noire qui s'est baladée par là, ils ont dû faire des petits, ce qui donc explique telle ou telle situation. » Et alors, ça a des conséquences évidemment complètement aberrantes, parce que, alors, par exemple, il a été, à la fin de sa vie de diplomate, il a eu un poste en Suède, et donc les Suédois, il les a pas trouvés du tout supérieurs ou beaux, etc. Il a trouvé que c'était des gens extrêmement ennuyeux, extrêmement routiniers, ayant une vie extrêmement monotone, bien réglée, ce qui pour lui correspond complètement à la race jaune. Et donc pour lui, ça fait pas un pli, quoi. C'est-à-dire que, en dépit des apparences, les Suédois sont jaunes. Et l'autre exemple qui donne dans son livre lieu à des développements complètement extravagants, c'est sur la population européenne et surtout française. Je dois dire que la seule population envers laquelle Gobineau a vraiment des préjugés racistes, violents, c'est les Français. C'est quelque chose de complètement viscéral. Et donc il observe que les paysans français sont des gens qui sont près de leurs sous, calculateurs, mesquins, typiquement race jaune, quoi. Et donc il essaie de prouver que les paysans français sont en fait asiatiques. Et il le prouve en ayant recours au folklore, c'est-à-dire à toutes les légendes qui, dans les différentes populations paysannes européennes, parlent des nains, puisque les Asiatiques sont, c'est bien connu, très petits et tout jaunes. Et donc, pendant 20 ou 30 pages d'affilée, il va chercher dans le folklore de toutes les contrées possibles et imaginables, et dans toutes les langues qu'il maîtrise, qui sont assez nombreuses, des preuves philologiques du fait que les nains dont parlent les légendes européennes sont en réalité des Asiatiques. Alors j'ai un passage que j'aime beaucoup, que je vais vous lire pour que vous ayez une idée de la façon dont il est capable de fonctionner, qui parle donc son étymologie du mot pygmée, qui est donc un mot d'origine grecque, qui signifie, sans la moindre ambiguïté, la distance qui va du bout de la main au coude, puisqu'il y a une exagération pour désigner des gens qui étaient très petits. Le mot de pygmée, pygmeos, indique la longueur du point au coude. Telle aurait été la hauteur du petit homme. Mais il est facile de concevoir que les questions de grandeur et de quantité, tout ce qui exige de la précision, est surtout maltraité par ces récits légendaires. L'histoire, même la plus correcte, n'est pas d'ailleurs à l'abri des exagérations et des erreurs de ce genre. Pygmeos est donc le pendant du petit poussé des contes français et du downling des contes allemands. En supposant cette étymologie irréprochable pour les époques historiques, il n'y a pas lieu d'en être pleinement satisfait et de s'y tenir pour ce qui appartient à une époque antérieure, et par conséquent à des notions plus saines. En se plaçant à ce point de vue, la forme primitive perdue de pygmeos, dérivée certainement d'une racine voisine du sanskrit pit, au féminin pa, qui veut dire jaune, et d'une expression voisine des formes pronominales sanscrites zen des Grecs, aham, azem, egon, qui, renfermant surtout l'idée abstraite de l'être, a donné naissance au gothique gouma, homme. Pygmeos ne signifie donc autre chose que homme jaune. Il est digne de remarque que la racine pronominale de ce mot gouma, se rapprochant dans les langues slaves de l'expression sanscrite gan, qui indique la production de l'être ou la génération, intercale un n là où les autres idiomes d'origine blanche, actuellement connus, ont abandonné cette lettre. Elle survit cependant en allemand dans une expression fort ancienne qui est gnome.